BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Cédrico, merci d'être avec nous. Bonjour. Secrétaire d'État donc au numérique. J'ai envie de dire, comment allez-vous ? Puisque vous êtes membre du gouvernement, avec le ministre de la Culture, Franck Riester, qui a été contaminé au coronavirus. Est-ce que vous avez passé un test ?
Écoutez, non, je n'ai pas été testé. Ce stade n'y avait pas de raison. Je n'ai pas vu Franck Riester depuis une semaine à peu près. Franck Riester, lui, va à peu près bien.
Il faut 14 jours,
pas vous savez. Non, en moyenne, c'est 6 jours. Ouais. Donc, il faut 14 jours, c'est vraiment la durée maximum. Bon, à ce stade, il n'y a pas de raison de me tester.
On verra. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, comme on le demande, hein, du reste, à des tas de gens, des tas de Français, des tas d'Italiens, etc., que le gouvernement se mette en quarantaine ? Enfin, pas en quarantaine, en l'occurrence, c'est soit 15 à 14 jours, le temps d'incubation. Ça serait normal, on demande à des Français de le faire, à des citoyens, pourquoi on ne le ferait pas ?
Mais
pour
il faut le faire. Les règles qui s'appliquent au gouvernement ne sont pas différentes de celles qui s'appliquent aux Français.
Ouais.
Et donc, il y a des règles très claires sur que faut-il faire si on a été en contact avec quelqu'un qui a été contaminé ou pas. On applique exactement les mêmes règles pour le gouvernement que pour les Français. Il ne faut pas céder à la psychose. Voilà, Franck Riester lui-même a été contaminé. Il est confiné pendant 14 jours, comme tout Français qui a été contaminé. Il va à peu près bien, il prend sa température, il n'a pas de contact avec les gens. Voilà, s'il y a d'autres symptômes qui apparaissent, on traitera les choses au cas par cas, mais il ne faut pas céder à la psychose.
Je crois qu'il y a un ministre qui s'est fait, pour cause, hein, qui s'est fait tester, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Bien sûr, lui, voilà, il est en contact avec beaucoup de soignants.
En permanence. Cédrico, si vous êtes là, c'est parce que des mesures de soutien ont été annoncées par Bruno Le Maire, ici même, du reste, avec un plan de relance pour les entreprises, les ETI, les PME, les artisans, on en dira un mot dans un instant aussi dans le RH, mais c'est sûr qu'il y a un secteur pour l'instant, on ne se préoccupe pas tellement de savoir comment il se comporte. Or, il est frappé de plein fouet, ce sont les start-up, bien sûr, et puis l'univers du numérique. Et là, vous êtes venu nous dire qu'est-ce que vous comptez faire.
Oui, alors Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, vous l'avez dit, ont annoncé des mesures très importantes pour aider les entreprises à passer cette période de difficulté. C'est sur le chômage partiel, c'est sur le lissage des cotisations sociales, sur le report d'un certain nombre de charges fiscales. Et ce que nous voulons faire, c'est ce que nous faisons, c'est adapter ces mesures au secteur des startups. Je prends un exemple. Sur le chômage partiel, on sait que les startups grossissent extrêmement vite. Certaines d'entre elles n'ont pas encore de comité d'entreprise. Or, aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, on avait besoin d'un accord du comité d'entreprise pour passer en chômage partiel. Mais on va traiter ce problème-là et faire en sorte que celles qui n'ont pas encore mis de comité d'entreprise en place puissent aussi avoir accès au chômage partiel. L'idée, c'est d'adapter l'ensemble des mesures qui ont été prises, qui sont adaptées à la situation, pour permettre aux startups, elles aussi, de passer cette période difficile.
Mais par exemple, sur les prêts de trésorerie, les garanties sur les trésoreries, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mesure qu'il faut adapter spécialement aux startups ? C'est vrai qu'ils sont plus fragiles. Hein.
Alors, on sait qu'effectivement, les startups, alors, elles ont un avantage souvent, c'est qu'elles sont financées sur fonds privés, donc elles n'ont pas la pression de la bourse, et en même temps, elles brûlent beaucoup de cash très vite, donc il faut qu'on ait des mesures pour la trésorerie. Donc, ce que j'ai dit, la BPI va évidemment accorder une attention particulière aux startups, aux prêts de trésorerie, aux prêts sans garantie, enfin aux garanties pardon sur les prêts bancaires. À ce stade, je n'ai pas d'inquiétude systémique, c'est-à-dire qu'il y a certains secteurs, le secteur du voyage, le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui sont très fortement impactés avec des baisses de chiffre d'affaires de -40 à -60%. Celles-ci, on les suit de très près. La BPI est sur les rangs et est prêt à intervenir. On fera ce qu'il faudra.
Ouais. Là, vous avez beaucoup de retours, là, de remontées chez vous ?
J'ai des remontées de certains secteurs. À ce stade, pas de tous les secteurs. Je disais, voyage, hôtellerie, restauration, événementiel, qui sont impactés pour l'ensemble de l'économie, particulièrement pour les startups.
D'accord, ok. Alors maintenant, là, il y a un problème, c'est qu'il faut le faire savoir. Donc là, vous avez aussi décidé de prendre un peu le taureau par les cornes, parce que souvent, quand on crée son entreprise, on est un peu loin de l'information, pour reprendre une de vos expressions.
Oui, effectivement, hein, le créateur de startup ou la créatrice de startup est assez loin de l'information. Donc on a vu tout à l'heure, on a réuni l'ensemble des associations France Digital, Techin, Croissance Plus et le Syntec pour qu'ils fassent savoir. On va mettre en place des sessions de rendez-vous particulières à French Tech Central, donc à Station F, et on va surtout mettre en place chaque semaine des points de questions-réponses en chat et en live sur internet avec la French Tech et les administrations, donc l'URSSAF, les impôts, etc., etc., pour faire en sorte que les créateurs de start-up qui sont parfois un peu loin de la puissance publique puissent poser toutes leurs questions et avoir toutes les réponses.
Justement, qu'est-ce que l'État peut faire ? Parce que l'État, il y a plusieurs aspects, bien sûr, il y a plusieurs volets, plusieurs visages, j'ai envie de dire, de l'État. L'URSSAF, est-ce qu'on a fait passer le RSI maintenant qui a été transformé, mais est-ce que vous avez fait passer des consignes, peut-être d'être un tout petit peu moins accro, quoi ?
Alors, très clairement, déjà, dès qu'une entreprise va solliciter des reports de charges sociales de cotisations. L'URSSAF regardera les choses avec un œil bienveillant. Les équipes de l'URSSAF sont complètement mobilisées pour traiter la situation. L'objectif, c'est que toutes les administrations, jusqu'au médiateur du crédit, au médiateur des entreprises, parce qu'il va y avoir aussi peut-être des discussions entre les grands groupes donneurs d'ordre et les start-up ou les petites PME qui sont fournisseurs, soient mobilisés pour aider les entreprises à passer cette période difficile.
Et est-ce que ce plan de soutien, c'est une question du reste que je n'avais pas posée à Bruno Le Maire, mais je vous la pose du coup, Cédrico, il va durer combien de temps? Parce que, alors vous me direz, le coronavirus, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a peut-être un petit indicateur, on voit quand même que le président chinois Xi Jinping est allé à Wuhan, donc qui était là où se trouvait le cœur de cette épidémie. C'est peut-être qu'effectivement, il y a une décrudescence. Enfin bon. Supposons que ça dure un mois, ce coronavirus. Enfin, et après, ça y est, ou deux mois. Mais derrière, on voit bien qu'il y a un effet domino qui va, lui, durer beaucoup plus longtemps pour les entreprises. Donc, est-ce que vous avez déjà une période minimum ?
Il faut différencier le traitement sanitaire de la crise,
ouais,
qui va durer le temps dont dure la crise sanitaire, et le traitement économique qui, lui, durera le temps qu'il faudra.
Ouais.
Et donc, si on a des répercussions économiques avec des entreprises qui sont en difficulté sur des mois, plusieurs mois derrière, on traitera la crise économique le temps qu'il faudra.
D'accord.
C'est difficile de vous répondre aujourd'hui parce que ça dépendra aussi du temps de la crise sanitaire. Il y aura un effet décalage de toute évidence. Mais voilà, on restera mobilisé le temps qu'il faudra.
Mais c'était l'effet décalage qui me paraît effectivement important. Alors, cela dit, on voit déjà des entreprises, alors qu'ils sont au cœur du système, enfin de l'épidémie, style Doctolib ou Care ou Klaxoon avec le télétravail, qui se sont mobilisés en disant on offre la gratuité d'utilisation de nos plateformes.
Ouais.
Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que vous encouragez ça?
Là où vous avez raison, c'est que le numérique est aussi un facteur de solution,
ouais,
notamment à travers le télétravail, la téléconsultation. Et il faut vraiment saluer les premières entreprises qui ont annoncé, comme Doctolib ou Care, la gratuité de la téléconsultation, ou Klaxoon, qui vient d'annoncer qu'ils allaient mettre en place leur solution de télétravail de manière gratuite dans les mois qui viennent. Et le numérique peut faire partie de la solution.
En mois d'essai gratuit, il y a des outils de travail.
Exactement. Ouais. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que les entreprises du numérique se mobilisent dans cette crise et qu'elles fassent en sorte de mettre leurs services à disposition, soit de manière avec des tarifs réduits, soit de manière gratuite. Donc je lance aujourd'hui un appel à toutes ces entreprises de la tech. Écrivez-nous, signalez-nous l'ensemble de des solutions que vous êtes prêts à mettre à disposition des entreprises, des administrations, des citoyens dans cette période un peu difficile. Et nous, on les mettra en avant et on en fera quelque part la publicité pour montrer que la tech se mobilise. Je donne l'adresse, c'est mobilisation-covid@numérique.gouv.fr, mobilisation-covid@numérique.gouv.fr. On le rappellera dans les communications.
Oui.
Mais voilà, il faut aussi mettre en avant le fait que les entreprises de la tech française s'engagent. Et donc, nous, on a vocation à le mettre en avant.
Est-ce que vous pensez, alors là, il faut bien regarder le côté un peu positif, hein, est-ce que vous pensez que justement sur le télétravail, sur Doctolib, est-ce que toutes ces plateformes qui apportent une solution, il y aura un avant et après la crise?
Je pense que globalement, dans la société, la numérisation de nos pratiques va faire un bond absolument extraordinaire. Mmh. C'est vrai dans l'éducation, où on voit que dans les départements où les classes sont fermées, on est obligé de faire cours par Internet, ou en tout cas de passer les exercices par Internet. C'est vrai dans la téléconsultation, c'est quelque chose qui avait bien démarré, mais qui là prend une accélération absolument extraordinaire. Et c'est vrai en général dans les pratiques des entreprises, les pratiques de télétravail, qui vont se retrouver développées parce que c'est l'occasion de tester des outils qui parfois étaient à disposition mais étaient peu utilisés, mais qui là vont être beaucoup plus utilisés. Il y a beaucoup de solutions françaises sur la table qui sont d'excellente qualité et c'est aussi quelque part une opportunité économique pour ces entreprises.
Ouais. Autre sujet, oui, quand même, il y a les élections municipales, hein, normalement, enfin pas normalement, elles vont se dérouler, après ça, le contexte est un peu particulier, c'est sûr. Sur les fake news, il y a eu plein de fake news. Du reste, les députés, Robert G, qui est aussi mon invité dans La République En Marche, a été victime de ces fake news. Je sais que c'est un peu un de vos chevaux de bataille, Cédrico. Est-ce que vous avez le sentiment que vous arrivez à contrôler et que justement les plateformes, les GAFA, ils commencent un peu à répondre à vos interpellations, on va dire ça?
Alors, on sait que sur d'autres sujets, on a des débats avec les géants du numérique. Sur ce sujet-là, aujourd'hui, je constate que leur mobilisation est totale et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour détecter et enrayer la propagation de fausses nouvelles ou de choses parfois plus dangereuses comme des médicaments miracles ou des solutions qui ne marchent pas ou qui n'arriveront jamais, qui vous permettent de guérir le coronavirus. Nous les avons réunis la semaine dernière. Je réunirai encore demain les marketplaces pour travailler sur la question des médicaments miracles et de la fraude sur les produits vendus sur Internet. Pour l'instant, si je vous donne mon impression, on voit que des fake news se diffusent, mais c'est beaucoup moins grave et beaucoup moins massif que ce qu'on a pu voir dans d'autres crises. Donc, nous restons extrêmement vigilants pour détecter les signaux faibles, répondre dès que nous voyons une information sortir, parce que ça peut être parfois très dangereux. On a vu, par exemple, une fake news qui disait « Si vous buvez de l'eau de Javel, ça va vous guérir du coronavirus. » Et donc, un, ça ne marche pas. Et deux, ça risque d'envoyer dans des services de réanimation des gens à un moment où les services de réanimation doivent être libres pour les gens qui doivent être traités pour le coronavirus. Donc, il faut traiter le sujet. En tout cas, pour l'instant, le sujet est plutôt moins massif que ce qu'on a vu dans d'autres crises, mais on reste très vigilant.
Ouais. Vous pouvez redonner votre site là.
Mobilisation-covid.gouv.fr.
Voilà, non, ça c'est un point important. Est-ce que sur cette histoire de fake news, parce qu'on sait que lorsque vous avez fait la campagne d'Emmanuel Macron, il y avait la fameuse chaîne russe. RT qui était vraiment dans le collimateur de Emmanuel Macron, on a appris que Canal+ allait la mettre sur son réseau satellite, donc elle a été diffusée dans le bloc des chaînes d'information. Juste un commentaire, vous dites c'est quand même étrange.
J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur RT, je pense que et Spoutnik notamment, parce qu'il y a ces deux chaînes qui ne me semblent pas comment dire, pour utiliser les termes choisis, qui sont des chaînes sous influence étrangère de toute évidence.
Oui.
Alors, je ne vais pas commenter plus avant. Je pense que
ça pose un
problème pour la démocratie, notamment en France, et que c'est un problème d'ailleurs pour l'État et pour les journalistes, parce que sous couvert de journalisme, certains tentent d'influencer et le débat démocratique et parfois les élections.
Merci beaucoup, Cédrico. Donc, en tous les cas, voilà, un plan de soutien spécial, start-up spécial, secteur du numérique spécial, tech, hein, en l'occurrence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être venu ici nous expliquer tout ça. Secrétaire d'État au numérique dans un instant. Lui, il est président des Artisans, la plus grande entreprise de France. Souvenez-vous, 3 millions d'artisans. Il est président de l'UDP. Alain Griset est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Alain Griset, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes président de l'UDP, un des syndicats patronaux, le président de l'Union des entreprises de proximité, grosso modo les artisans, profession libérale. Vous étiez hier, vous sortez même d'une réunion là à Bercy, notamment sur les mesures de soutien. Hier, il y avait aussi cette grande réunion avec les acteurs économiques. Et en même temps, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez des remontées, justement? Quel est l'impact économique sur les artisans, par exemple?
Très clairement, on a des secteurs qui sont extrêmement touchés. Vas-y. Un exemple, les traiteurs, très clairement, restaurants, hôtels, et dans des territoires sur lesquels aujourd'hui ces entreprises-là quasiment n'ont plus d'activité. Je pars dans l'Oise, je pars dans le Haut-Rhin, on est là vraiment sur des situations aujourd'hui pour eux, c'est terminé. Plus de travail, plus de commandes, plus de perspectives.
Oui, et là, sur le territoire français, il y a des zones différentes où tout le monde est à peu près à la
même. Non, très clairement aujourd'hui.
France, j'imagine, plus important.
Voilà, il y a l'impact Île-de-France Tourisme, beaucoup, et puis il y a les impacts dans l'Oise, dans le Haut-Rhin, qui sont les territoires aujourd'hui qui ont été particulièrement sensibles, parce que tout de suite touchés, et dans lesquels il y a eu quand même beaucoup, très vite, de nombreux cas.
Quelle est la gravité de la situation? Je m'entends, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à mettre la clé sous la porte? Au-delà des mesures de soutien dont on va parler un instant, mais j'imagine que quand on est un petit traiteur, quand on est autocarisme et on est une petite entreprise, l'impact il est direct, il frappe tout de suite, quoi. Il y a pas de matelas derrière.
Je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'en France, 98% d'entreprises sont des petites entreprises, oui, de moins de 20 salariés. Oui. Et donc, il peut y avoir un nombre extrêmement important d'entreprises concernées. Et là, on voit bien que la situation aujourd'hui, avec le virus, fait suite au mois de décembre, avec les manifestations retraites, qui ont déjà eu un impact sur beaucoup d'entreprises, qui elles-mêmes faisaient suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc, beaucoup de nos entreprises sont déjà très fragilisées aujourd'hui. Mmh. Et c'est un petit peu le coup d'épaule en plus qui les fait tomber. Donc là, il ne faut pas que le bras tremble. Il faut que les mesures soient massives dans différents domaines pour permettre à chacun de ceux qui le peuvent encore de continuer d'exister demain.
Alors, le sont-elles, justement? On entendait là donc Cédric O, qui lui était sur les startups, hein, et sur l'écosystème de la tech. Vous, est-ce que vous estimez que vous avez eu suffisamment le plan de soutien de Bercy est suffisant pour vos adhérents?
Bon, d'abord, on voit qu'il y a une réactivité, une écoute. Mmh. Il faut saluer. Mmh. Maintenant, je pense qu'on doit aller un peu plus loin, et dans différents domaines. Alors, il y a la partie cotisation sociale. Bruno Le Maire dit un simple clic permettra de reporter. Il y a beaucoup d'entreprises où on ne peut plus reporter. Mmh. Il faut qu'il y ait des dégrèvements. Quand vous avez 70%, 80% de chiffre d'affaires en moins, ça ne sert à rien de reporter. Surtout qu'ils sont déjà en train de payer ce qui avait été reporté du mois de décembre.
Les jaunes et les grèves.
Bon, à un moment donné, ce n'est plus possible. Mmh. Et donc, il faut dire clairement qu'il y aura des dégrèvements de cotisations sociales pendant le temps de la crise. Ça peut durer un mois, deux mois, et c'est plus la peine d'appeler une cotisation sociale dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas de chiffre d'affaires. Ouais. Ensuite, il y a les prélèvements de l'État lui-même. Là aussi, il faut très clairement que l'État arrête tous les prélèvements aux dates prévues et qu'il y ait des dégrèvements prévus.
C'est à partir de quand, ça ? Parce que justement, il faut surveiller, parce qu'il y a les annonces des ministres, souvent, et puis après, dans les administrations...
Il faut que ça soit immédiat, aujourd'hui. Ouais. Je disais,
Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui même.
Oui, non, non, mais
vous
c'est
avez vérifié,
ça.
J'imagine, non, à la
C'est pour ça que, naturellement, il faut que ça soit rapidement opérationnel. Puis après, il y a la partie bancaire. Il est évident que sur la partie bancaire, s'il y a des prêts, il faut être en situation de pouvoir reporter les échéances de prêts. Il faut que la mesure annoncée par Bruno Le Maire de soutien BPI au crédit de trésorerie se mette en œuvre. Et dans nos entreprises, ce n'est pas toujours évident que BPI soit réactif. Puis il faut aussi que les banques eux-mêmes, en cas de découvert, soient suffisamment ouvertes pour ne pas mettre la tête sous l'eau à quelqu'un qui est déjà en difficulté. Donc il faut qu'il y ait de la responsabilité des banques vis-à-vis de nos entreprises.
Oui, là, on voit que ça y est, ça a été pris, c'était annoncé. Je disais, Bruno Le Maire l'a annoncé il y a une semaine ici même. Il est revenu, il y a d'autres mesures qu'il a annoncées lundi, encore tout à l'heure. Il y a eu BPI France, Nicolas Dufour, qui est venu ici expliquer tout ce qu'il allait faire. Maintenant, ça fait une semaine. Une semaine, c'est long pour un chef d'entreprise qui voit toutes les commandes qui, elles, s'annulent en un clic. Mmh. Donc, est-ce que vous observez déjà une amélioration, enfin, un soutien, ou toujours pas, 8 jours après ? Voilà. C'est ça ma question.
On peut pas dire que toutes les mesures soient encore totalement mises en œuvre. Et puis, nos collègues, vous savez, c'est un peu leur attitude. Ils vont pas spontanément, tout de suite, aller demander. Et d'ailleurs, ce qui est à craindre dans nos secteurs, c'est qu'il y a toujours un effet contre-coup, qui est pas toujours immédiat. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est que ces mesures-là soient bien assises, confirmé, opérationnel, qu'on envisage même, nous l'a demandé à Bruno Le Maire, qu'il y ait des fonds de soutien direct, de l'argent mis sur la table. On voit bien qu'au niveau européen, il peut y avoir des discussions, et une entreprise qui a zéro chiffre d'affaires qui rentre, pendant un moment donné, il faudra bien qu'il y ait des soutiens directs. Donc c'est tout un cumul de dispositifs qu'il faut mettre en œuvre, qui doivent être simples, s'il vous plaît, qui doivent être simples, parce que sinon nos collègues n'y vont pas, et qui leur permettent de passer cette période dont on ne sait pas aujourd'hui combien de temps elle va durer. Parce que c'est une grande inconnue.
Ah ben, non, ça dure. Sûr, mais il faut, c'est ce que disait Cédrico aussi. Il faut s'inscrire dans le temps parce que il y a un décalage entre l'impact santé et l'impact économique.
Naturellement.
Et alors vous allez un tout petit peu plus loin. Vous demandez qui est aussi en cas de force majeure, qui est le cas. Vous demandez une garantie sur les pertes d'exploitation.
Il faut absolument qu'on puisse permettre.
Ça ne rentrait pas encore. On est bien d'accord dans les mesures de soutien.
Il faut envisager
vous demandez en plus
des aides directes.
Oui.
Une entreprise comme les traiteurs aujourd'hui qui perdent 70-80% de leur chiffre d'affaires, alors il y a le chômage partiel qui va être mis en œuvre, c'est bien. Mais au bout du compte, quand il n'y a pas de recette du tout, comment vous faites ? À un moment donné, si on veut sauvegarder les entreprises, parce qu'il faut regarder le coup d'après. À un moment donné, il y aura la crise médicale va s'arrêter.
La dernière fois qu'on a fait jouer ce mécanisme de garantie de perte d'exploitation, c'était quand ?
Pour nous, quasiment jamais. Pour nous, quasiment jamais. Mais on n'est pas non plus dans une situation qui est tout à fait extraordinaire aujourd'hui. Moi, de mémoire, je n'ai pas souvenance qu'on ait eu sur une période, je rappelle, gilets jaunes, retraite et maintenant virus. Et donc, comprenez que les entreprises qui n'ont pas toujours des trésoreries très flamboyantes, aujourd'hui, se trouvent totalement à sec. Et donc, qu'on est vraiment totalement à sec, il n'y a pas de solution. La solution, c'est de dire j'arrête, on n'en parle plus. Et puis on verra plus tard. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Si dans un mois, deux mois, ce qu'on l'espère tous, la situation sanitaire s'améliore, c'est là qu'on aura besoin des entreprises pour relancer l'économie. Il faut les préserver aujourd'hui pour qu'elles soient demain en totale forme pour pouvoir se développer.
Est-ce que vous avez mis au niveau de l'UDP, est-ce que vous avez mis une cellule de crise en place ?
Alors, on a naturellement dans tous les départements nos collègues qui sont à l'écoute, qui interviennent auprès des organismes sociaux, qui interviennent auprès des banques, dès qu'on a une information. Hier, j'étais dans ma région, dans les Hauts-de-France, on a travaillé. D'ailleurs, nous avons demandé au conseil régional des Hauts-de-France de regarder de quelle manière, dans leurs compétences économiques, ils pouvaient également intervenir. Mm-hmm. Et donc, naturellement, nous jouons notre rôle d'alerte de conseils, de soutien, de façon à ce que nos entreprises passent le moins mal possible cette situation difficile.
Est-ce que sur le chômage partiel, est-ce que vous avez des chiffres ? Parce que je posais la question à Muriel Pénicaud dimanche sur BFM TV dans le cadre de BFM Politique. Elle disait qu'il y avait 900 entreprises, mais ça c'était dimanche. Le jeudi d'avant c'était 400. On voit que bon, c'est un peu exponentiel, c'est normal. Mais vous, à l'UDP, donc plutôt les artisans et les TPE, vous avez quoi comme remontée ?
On n'a pas de chiffres précis. Non. Encore une fois, c'est pas une tradition et c'est pas le réflexe automatique. Et vos collègues de collègues nous ont dit la semaine dernière, mais si je me mets au chômage et puis que j'ai une commande, comment je fais ? Enfin bon. Mais sans aucun doute, aujourd'hui la situation est telle qu'il va en avoir. Et il peut en avoir beaucoup.
Oui, mais c'est ça que vous n'arrivez pas encore à mesurer. Non. Et que pour l'instant, vous n'en avez pas. Enfin, il n'y a rien qui vous remonte.
Non, pas pour l'instant. D'accord. Pas en nombre en tout cas.
Oui. Un mot, c'est vrai qu'on a un tout petit peu oublié, mais ça continue, la discussion entre guillemets sur la réforme des retraites. Il y a la CFDT là, qui demande à l'instant le report de la réforme des retraites à cause du coronavirus en disant attendez, on n'a vraiment pas le temps, la conférence de financement, tout ça, on n'a pas le temps tellement de s'en occuper. Est-ce que vous êtes d'accord avec la CFDT ?
Bon, je veux dire, on peut l'envisager. Hein. Les discussions continuent, puisque ce matin, il y avait une réunion sur la conférence financement. Normalement, il doit y avoir un résultat pour fin avril. Bon, à l'UDP, de toute façon, nous, si jamais il faut reporter, c'est une décision politique.
Et est-ce qu'il faut aussi reporter les nouvelles sur les nouvelles règles de l'assurance chômage ? Ça paraît un peu évident, quelque part, ou pas ? Non ?
Oui, je veux dire, là, c'est normalement au 1er avril.
C'est ça que demande la CFDT.
Voilà, au 1er avril. Bon, c'est des règles qui ont été prévues pour, là aussi, réussir à avoir un équilibre. Bon, si jamais la situation est telle qu'il faut envisager un report, pour nous, on n'y verra pas d'inconvénient, parce qu'on voit bien qu'on est une situation exceptionnelle. Ouais. Donc, nous, on demande... au regard de cette situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles, donc elles peuvent également exister dans d'autres domaines.
Voilà, donc pas opposé à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Merci beaucoup Alain Grisé d'avoir été avec nous, président de l'Union des entreprises de proximité. Dans un instant, on parle d'une autre réforme, mais oui, elle continue, pourtant même s'il n'a plus de ministre, puisqu'il est confiné, c'est la réforme de l'audiovisuel qui est à l'Assemblée nationale, ça vient de commencer. Aurore Berger, qui est la rapporteure, est de mon invité d'ici quelques minutes.
BFM Business, l'heure H, l'invité.
Mon invité, c'est Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, et puis surtout rapporteur du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel. Aurore Berger, merci d'être avec nous. Juste une question, je posais la même question à Cédrico, bien sûr. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes rapporteur de la loi sur l'audiovisuel, et j'avais dit, il y a trois députés qui ont été testés positifs au coronavirus, quelqu'un à la buvette, votre ministre, même de tutelle par rapport à la réforme de l'audiovisuel, aussi, est-ce que vous ne devriez pas faire du télétravail plutôt?
Alors, je pense qu'il faut rester très calme, en fait, par rapport à ce qui est en train de se passer. Déjà, parce que la France, elle est prête à affronter ce type de crise sanitaire. Ensuite, parce qu'il y a des consignes très claires qui ont été passées et qu'il faut juste qu'on respecte. C'est-à-dire, on prend sa température deux fois par jour, on se serre plus la main, on fait plus la bise, on se lave les mains régulièrement. Enfin, des consignes basiques, mais qu'il faut respecter. Et évidemment, si jamais on voit des symptômes qui se révèlent, alors, on prend.
Mais à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, il y a des mesures, il y a quelqu'un qui vient prendre la température de tous les députés, les 500 députés tous les jours.
Non, mais vous voyez, je veux dire, c'est.
Non, mais une obligation, quelque chose.
Mais non, mais en fait, il faut absolument qu'on applique les mêmes consignes que pour l'ensemble des Français. D'ailleurs, je le dis parce qu'il faut que les Français respectent ce qu'on appelait les barrières sanitaires. Alors, c'est pas très français, en effet. Nous, en général, on se serre la main ou on s'embrasse quand on se voit. Mais il faut plus le faire parce que c'est comme ça qu'on peut favoriser la propagation du virus. Et donc, il faut juste respecter quelques consignes très simples et ça se passera bien. Encore une fois, vous savez, malheureusement, la grippe traditionnelle dans notre pays, c'est des milliers de morts chaque année et on n'a pas un décompte tous les jours. Donc, il faut, à mon avis, juste qu'on reste calme et qu'on respecte ses consignes.
La loi sur la réforme de l'audiovisuel est à l'Assemblée nationale là depuis quelques jours. Est-ce qu'il ne fallait pas le décaler, sachant que le ministre, il ne peut pas tellement venir la défendre, la soutenir ? Alors, ce n'est pas encore en débat.
On a fini l'examen en commission des affaires culturelles. Voilà. C'était la semaine dernière. Mmh. On a fini jeudi dernier et on l'a adopté à la quasi-unanimité, d'ailleurs, des parlementaires de la commission des affaires culturelles. Et on va reprendre l'examen avec un certain nombre de modifications qui ont été apportées par les parlementaires. en séance publique, donc dans l'hémicycle, à partir du lundi 30 mars. Donc, oui.
Donc il sera revenu.
Temps. Okay,
tout le monde ira bien. Cela dit, ça veut dire plus sérieusement, même si c'est sérieux, mais enfin, a priori, il a l'air d'aller bien. L'industrie, on voit bien que les industries culturelles, qui pèsent très très lourdes dans le monde entier, en France aussi, et gravement atteinte, enfin vraiment en top de liste de l'impact économique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut des mesures là, particulières ou pas? On dit que l'industrie du cinéma, un chiffre que vous avez peut-être vu ce matin chez nos confrères du Figaro, pourrait avoir perdu 5 milliards de dollars.
Donc, il y a une inquiétude qui est extrêmement sérieuse pour l'ensemble des industries culturelles, pour les salles de cinéma, parce que par mesure de précaution dans certains départements qui étaient très touchés, les salles de cinéma ont été fermées. Donc évidemment, c'est un manque à gagner majeur. Des distributeurs qui ont reporté aussi ce qu'on peut comprendre, évidemment, des sorties de films importants pour ne pas prendre le risque eh bien, que moins de monde les voit. Moi, je pense que...
Ben, le plus emblématique, évidemment, c'est James Bond.
On peut continuer à vivre, on peut continuer à aller en salle de cinéma. La seule mesure de restriction qui a été apportée par le ministère, c'est quand vous avez plus de 1000 personnes qui sont confinées dans une pièce. Donc, vous avez quand même peu de salles de cinéma qui sont concernées. On peut continuer aussi à sortir pour voir des spectacles.
Oui, mais vous voyez bien...
Je pense que c'est important aussi de donner des messages qui sont rassurants. Et après, il va falloir s'interroger sur les mesures de soutien. Je pense aux intermittents du spectacle qui s'interrogent, évidemment, qui disent est-ce que je vais réussir à obtenir le plafond d'heures pour avoir le statut d'intermittent du spectacle si jamais des tournées devaient être annulées, par exemple. Et donc ça, évidemment, il va falloir que le ministère de la Culture puisse être en soutien de l'ensemble de cette industrie culturelle au sens très large qui touche à la fois le spectacle vivant, qui touche le cinéma, qui peut toucher l'audiovisuel. Et je pense que là, c'est vraiment le ministère qui doit pouvoir apporter des réponses. Et nous, qui devons continuer à avoir des messages extrêmement rassurants à diffuser, tout simplement parce qu'on peut largement continuer à vivre en France malgré le coronavirus.
Oui, alors Berger, c'est un petit peu ce que vous dites. C'est Cédrico qui est venu sur le numérique, qui est venu nous dire que, ben voilà, il faut des aménagements spécifiques pour ce secteur. Vous dites qu'il faudrait que le ministre de la Culture fasse ça pour les industries culturelles et puis évidemment les intermittents du spectacle qui vont être frappés extrêmement vite parce que pour l'instant on voit bien que tout s'annule.
Enfin, on va être confronté dans les semaines qui viennent vraisemblablement à des restrictions qui peuvent arriver comme là ça a déjà été le cas pour des jauges au-delà de 1000 personnes. Donc ça peut concerner certains théâtres, ça peut concerner certains spectacles vivants, le cirque. Enfin, on voit bien qu'il y a beaucoup du milieu culturel qui peut être impacté. Et donc, il va falloir qu'on puisse prendre des mesures spécifiques, parce que c'est aussi un secteur qui est très fragile économiquement. Sortir un film en salle de cinéma, c'est extrêmement difficile. Ouais. Chaque film, c'est un prototype. Chaque film, c'est un pari. C'est un pari culturel, créatif. C'est aussi un pari industriel. Et donc, il va falloir qu'on puisse accompagner les distributeurs, les producteurs, les salles de cinéma et le spectacle vivant, évidemment.
Oui, ce matin, je recevais Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, mais qui, évidemment, dans son stade, il y a des concerts de Rihanna, il y a des concerts... Là, il y avait le Cirque du Soleil. Ils ont annulé hier soir, je crois. Donc, du coup, c'est un manque à gagner aussi extrêmement important pour l'Olympique Lyonnais, mais comme ça existe pour d'autres. Les élections municipales, on ne va pas parler sur le fond. Vous n'êtes pas là pour ça, Aurore Berger. Malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il y a un taux d'abstention important?
Encore une fois, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'on soit extrêmement responsable dans l'expression publique qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on a un climat aussi qui est très anxiogène parce qu'on a une forme presque des comptes journaliers qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc encore une fois, vous ne prenez pas un risque en allant dans un bureau de vote. Vous allez rester, 15-30 minutes. Vous n'allez pas être confiné dans une salle avec 1000 personnes. Et donc, vous avez évidemment toute la possibilité et la latitude pour aller voter. Pour des publics qui seraient des publics très fragiles, je pense aux personnes âgées qui sont aujourd'hui en EHPAD, le ministère de l'Intérieur a pris des dispositions spécifiques pour qu'on puisse plus facilement recueillir leurs procurations. Parce que si vous avez plus de 80 ans, vous êtes en effet un public à risque. Quand vous avez mon âge, vous n'êtes pas du tout un public à risque. Et donc, il n'y a aucune raison, encore une fois, qu'on s'inquiète. Je pense qu'aller voter, c'est un engagement nécessaire, citoyen, et encore une fois, tous aux urnes. Il ne faut pas qu'on ait peur d'aller voter dimanche.
Alors, réforme de l'audiovisuel, c'est pour ça que vous êtes là, puisque vous êtes la rapporteure de cette loi. Alors, où il y a du... On écoute les professionnels, il y a du pour et il y a du contre, hein, donc comme toujours. Mais là, c'est assez amusant de voir qu'il y a vraiment une espèce de clivage sur la création, qui est peut-être une des mesures fortes du holding, sur l'audiovisuel public qui regroupe tous les pôles, que ça soit donc France Télévisions, Radio France, France Médias, France Médias en l'occurrence, on va dire ça comme ça. Est-ce que à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être encore le côté français? On a besoin d'empiler un peu. On a fait la fusion des régions, donc on a fait les super régions. Du coup, ça coûte 4 fois plus cher, si on en croit la Cour des comptes. On voit ça sur les communautés de communes, ça coûte encore plus cher les empilements. Et là, on fait ça sur l'audiovisuel.
Alors, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu, c'est ni une super technostructure, ce qui est en effet souvent un travers français, ni un enjeu d'économie. Le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une logique à ce qu'on crée un nouveau grand groupe public qui permette de regrouper Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, c'est-à-dire l'audiovisuel public extérieur, et l'INA. Parce qu'après tout,
ils sont eux-mêmes déjà des holdings, parce qu'à la limite, France Télévisions, c'est aussi un holding, puisqu'il y a des chaînes en dessous.
Il y a évidemment.
Donc c'est le holding du holding.
Radio France. Non, mais l'idée, c'est un moyen. Quand vous créez un nouveau groupe public, c'est en effet un moyen, c'est pas une fin. Ça ne dessine pas une politique publique de juste dire on crée une holding. La question, c'est de se dire à un moment, pourquoi est-ce qu'on estime que c'est pertinent d'arriver à les regrouper? Moi, je pense que c'est pertinent parce que ça va permettre plus de synergie. La demande qui est faite notamment par les Français quand ils ont été consultés régulièrement sur ces sujets-là, c'est deux demandes principales. Une demande d'information de proximité. On veut voir plus d'informations de proximité et donc des rapprochements entre la télé et la radio, notamment de ce point de vue-là. Et puis, une demande aussi qui est très forte, qui est la singularité. Est-ce que quand je regarde ou quand j'écoute l'audiovisuel public, je regarde quelque chose qui est différent, quelque chose que je ne verrai pas ou je n'entendrai pas forcément dans l'audiovisuel privé? Et donc, comment on réaffirme des missions qui sont vraiment les missions de l'audiovisuel public sur la question de l'accès à la culture, sur la question de l'audiovisuel public extérieur, sur la question de l'éducation, sur la question d'une information qui doit être plurielle, pluraliste, indépendante? Donc, c'est ces missions-là qu'on doit absolument réaffirmer. Si c'est pour faire une nouvelle technostructure ou pour être en recherche éternelle d'économie, c'est pas les objectifs qui doivent être poursuivis par la création.
Mais comment faire ? Comment vous avoir cette assurance ? Parce que vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, les tentations françaises.
Mais je vois très bien, en effet, les tentations françaises et les risques, en effet, comme vous le dites, à un moment, de risque
d'enfilement. Parce que ça fait trois niveaux par rapport à une décision.
Déjà, moi, je vois un bénéfice, c'est sur la manière avec laquelle on va pouvoir nommer les personnes qui seront à la tête de ce qu'on appelle demain France Média. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a toujours un soupçon qui existe sur les nominations à la tête de l'audiovisuel.
Mais à chaque président change le mode de nomination.
Et à chaque fois que ça change, et quel que soit
aussi
le modèle, on dit, mais attention, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Donc, sous Nicolas Sarkozy, c'est directement le président de la République qui nommait.
Oui, en disant il faut être franc, de manière comme c'est le président qui décide.
Justement, il ne faut pas que ça puisse être le cas. Donc, il faut arriver à trouver le mécanisme qui doit être le plus transparent possible et qui doit garantir la plus grande indépendance. Parce que l'audiovisuel public, c'est quand même la capacité, notamment, d'avoir un groupe média très puissant en termes d'information et d'avoir une ligne éditoriale, évidemment, mais démontrer aussi que cette information, elle est complètement indépendante du pouvoir, quel qu'il soit, parce que France Média, ça va survivre de toute façon, je l'espère, au président de la République.
Vous savez bien que toutes les lois, on peut les défaire. Donc, bon, voilà.
Mais enfin, l'idée, c'est quand même de se dire, on fait un vrai pari, on embarque aussi les personnels de ces groupes actuels. Donc l'idée, c'est pas que ça dure 2 ans ou 5 ans, c'est de se dire, à un moment, on a besoin de regrouper les forces de l'audiovisuel public français.
C'est toujours la tentation de faire la BBC à la française, mais en même temps, on voit que la BBC, c'est pas toujours très évident, même si c'est des excellentes.
Alors, on voit surtout les attaques actuelles de Boris Johnson contre la BBC, qui veut justement baisser massivement les moyens de la BBC. C'est là où on voit justement qu'on a besoin d'un audiovisuel public très fort et qu'on a besoin d'une indépendance dans les financements de l'audiovisuel public, parce que là, il se trouve qu'on a un Premier ministre en Grande-Bretagne qui considère que la BBC, en gros, a été trop de parti pris contre le Brexit, n'a pas avantagé Boris Johnson, et c'est la raison pour laquelle, quelque part, il cherche à se venger sur l'audiovisuel public.
Mais quel financement mais la question, c'est le financement, parce que, est-ce que, par exemple, il faut supprimer la redevance?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous supprimez la taxe... Alors, attendez. À partir du moment où on supprime la taxe d'habitation, on va falloir se poser la question de, tout simplement, comment on va pouvoir recouvrer les moyens de l'audiovisuel public. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a besoin d'avoir des ressources qui sont indépendantes. Et il ne faudrait pas, en tout cas c'est mon point de vue personnel, que ce soit directement sur le budget de l'État. Parce que moi je crains que si c'est ça, eh bien ce soit une variable d'ajustement systématique et que budget après budget, je le vois bien sur le budget de la culture. Ça fait 3 ans que je suis députée et à chaque nouveau budget de la culture, c'est un combat politique majeur. Mmh. C'est à peine 2% du budget de l'État.
Oui, c'est ridicule.
À peine 2%, mmh. Ça rapporte aussi beaucoup, vous le dites ici suffisamment régulièrement. Et pourtant ce budget, il est systématiquement contesté, attaqué. Donc c'est un vrai combat à mener.
Le budget, il est attaqué sur le rôle d'avoir un ministère de la culture aussi, en disant on est un des rares pays.
On est un des rares pays, mais je pense qu'il y a une singularité qui est extrêmement positive sur la capacité de la France à avoir une voix dans le monde, à avoir cette singularité, à avoir une force.
On finance comment ?
Et surtout, je suis désolée, mais ça rapporte aussi. À un moment, vous êtes dans une émission qui est ici économique, vous voyez bien qu'on parle d'industrie culturelle et créative, c'est aussi source d'emploi et de croissance de manière majeure dans notre pays. Sur la manière avec laquelle on finance l'audiovisuel public, moi je souhaite qu'on puisse avoir des ressources qui soient directement affectées à l'audiovisuel public. Est-ce que ça doit être via une contribution à l'audiovisuel public qui soit payée demain par l'ensemble des Français, qui soit universalisée ? Ça, c'est une question qui peut se poser. En tout cas, est-ce que
Et sur l'ensemble des supports ?
Alors, ça dépend. Est-ce que vous adossez ça à tous les supports ? Est-ce que vous adossez ça juste au foyer ? Ça, c'est un débat qu'on doit avoir.
Et vous, à titre personnel, puisque vous avez...
À titre personnel, moi, je pense qu'il y a une logique d'universalisation de la ressource, tout simplement parce que c'est un service public, l'audiovisuel public. Et à partir du moment où c'est un service public, il y a une logique à ce que chacun puisse un peu y contribuer, sachant qu'aujourd'hui, on est à 138 euros par an, ce qui est dans la moyenne basse de la contribution au sein de l'Union européenne, à l'audiovisuel public. Donc on a vraiment, par rapport à ce que représente l'audiovisuel public en France, en termes de volume de chaînes, d'antennes, de radio, d'audiovisuel, je pense vraiment que c'est peu cher par rapport à la qualité de ce qu'est notre audiovisuel public.
À quoi va chercher... Oui, mais en même temps, si on a envie de refuser, parce qu'il y a des tas de jeunes qui ne regardent pas le service public.
Oui, enfin, il y a aussi des gens qui, à un moment, ne vont pas mettre leurs enfants à l'école et pour autant, ils contribuent bien au financement des écoles. Un service public, il y a une logique à ce que chacun puisse y contribuer.
C'est un service public. Fusion des autorités, justement, on était dans les autorités, la nomination, elle serait retirée au CSA. Fusion CSA-ADOPI.
Oui.
Là, qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, j'avais recommandé cette fusion il y a déjà 18 mois.
Oui.
Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'autorités de régulation. La difficulté, c'est parfois une difficulté de dialogue entre les différentes autorités de régulation. Et je trouvais qu'il y avait une logique à se dire, il faut qu'on garde l'ARCEP à part, parce que là, on vient réguler sur la question des réseaux notamment, et c'est un autre métier. Mais sur la ADOPI et le CSA, on peut avoir demain l'ARCOM, puisque ce sera sa dénomination, une autorité unique sur la régulation des contenus, à la fois avec la spécificité de la ADOPI sur la lutte contre le piratage, qui reste quand même un pillage massif des œuvres et donc du risque de baisse de financement demain pour la création. Et après, le rôle évident du CSA sur la question notamment, par exemple, du pluralisme, sur la manière avec laquelle on doit pouvoir juger de ce qui existe ou pas.
Alors justement, sur le piratage, il y a tout un débat en disant, effectivement, le gouvernement, enfin, Christer était parti, il faut être beaucoup plus dur sur le piratage, la pénalisation du piratage. Puis finalement, on arrive à l'Assemblée nationale, puis même en commission, un texte qui est beaucoup plus laxiste, on va dire, sur le piratage. Pourquoi ?
Alors, il y a quand même plusieurs choses. Déjà, c'est vrai que le projet de loi renforce de manière très claire la lutte contre le piratage. C'est-à-dire que demain...
En quoi ?
Alors déjà, sur la question de ce qu'on appelle les sites miroirs, c'est-à-dire que vous avez une première décision de justice, les ayants droit ont toujours gagné en justice face à des sites qui sont des sites pirates. On interdit un site et puis qu'est-ce qui se passe ? On a des répliques qui vont être créées. Mais si à chaque nouvelle réplique, vous devez avoir une nouvelle décision de justice qui intervient, c'est un combat sans fin, c'est le tonneau des Danaïdes et vous n'y arrivez jamais. Ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on a une première décision de justice, s'il y a des répliques, eh bien, on doit pouvoir répliquer en fait cette décision de justice. Ça, la loi va le permettre et c'est une avancée majeure sur la lutte contre les sites qui sont les sites pirates.
C'est une adaptation par rapport à, finalement, aux technologies. Quoi.
Ouais. Exactement, mais une adaptation qui est nécessaire et qui, encore une fois, ne laisse pas de côté la décision judiciaire. On a bien une décision judiciaire qui intervient et ça, je pense que c'est important. Ensuite, en commission, on a considérablement renforcé le dispositif sur le piratage sportif. Parce qu'on le voit bien aujourd'hui, on a des droits sportifs qui sont commercialisés de plus en plus chers. C'est d'ailleurs peut-être une question qui devrait nous interroger, mais qui permet aussi le financement de tout le sport amateur. On a une taxe qui s'appelle la taxe Buffet, l'ancienne ministre des Sports. Et donc, quand vous avez des droits sportifs, eh bien, vous avez une quote-part qui est ensuite reversée au sport amateur. Problème, c'est que si vous pouvez regarder en live sur des sites de streaming sans vous abonner à Canal, à Bing ou à d'autres antennes, eh bien, vous pouvez regarder gratuitement et illégalement, bah, aucun intérêt à vous abonner et donc un risque sur les droits sportifs. Donc là, on a mis en place des dispositifs spécifique parce qu'on a besoin évidemment d'aller beaucoup plus vite parce qu'un match de foot à un moment c'est 2 fois 45 minutes et donc si la décision intervient 48 heures après ça a peu d'impact, donc là
c'est fini,
ça a été vraiment considérablement renforcé par des amendements des parlementaires.
Alors maintenant on a sur un la troisième sanction, point
que, oui. Où c'est vrai qu'on a eu un désaccord, et voilà, il faut le reconnaître, entre le gouvernement et ce que j'ai pu porter avec un certain nombre de parlementaires
sur la sanction.
Est-ce que oui ou non il faut sanctionner l'internaute qui va de manière illégale faire du pair à pair, c'est-à-dire des échanges de fichiers illégaux. Pair à pair, c'est je donne des fichiers illégaux et en échange je peux recevoir des fichiers illégaux. Aujourd'hui, la Hadopi, en fait, elle a un mécanisme qui est un mécanisme un peu dissuasif, mais qui ne permet pas de sanction, parce que la sanction, elle ne peut intervenir que dans le cadre d'une décision de justice. Et ce que dit la justice, qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a un engorgement tel sur tellement d'autres sujets que celui-ci, on ne le juge pas prioritaire. Et donc, on n'a jamais de sanction qui intervient.
D'accord.
Moi, je considère, en tout cas, c'est ce que j'ai défendu en commission, qu'à un moment, il y a une légitimité, quand vous êtes dans l'illégalité, quand vous avez été alerté déjà par 2 fois de votre illégalité, qu'à un moment, une sanction puisse exister. Je pense qu'il y aura à nouveau ce débat, de toute façon, en séance publique.
Or, ben, il y a encore beaucoup de questions, donc peut-être un tout petit peu plus vite dans vos réponses. Excusez-moi. Non, je recevais Nicolas Taverneau, le patron d'M6, qui dit c'est un peu dommage, c'est que même avec cette réforme sur l'audiovisuel, où il y a des bonnes choses, qui ne vont pas assez loin sur la production, mais en revanche, ça ne nous permet pas de nous associer, de faire des grands géants européens.
Alors, il n'y a rien qui empêche aujourd'hui la constitution de géants
européens. Sur le contrôle des
d'ailleurs,
groupes.
D'ailleurs, M6 le prouve, puisque c'est quand même un groupe qui n'est pas qu'un groupe français. Donc, on arrive à faire évidemment des géants européens et donc il n'y a rien dans la loi qui l'empêche. Par contre, c'est vrai que M6 voudrait beaucoup plus facilement faire de l'intégration verticale et donc avoir en fait des producteurs qui soient des producteurs exécutifs. Nous, ce qu'on dit, parce qu'il va falloir qu'on fasse une législation qui fonctionne non seulement avec les diffuseurs, mais qui fonctionnent aussi avec des nouvelles plateformes qui n'ont pas du tout les mêmes règles, les mêmes modes de fonctionnement que les nôtres, c'est qu'à un moment, la manière avec laquelle on fait de la production dans notre pays, eh bien, c'est aussi de garantir l'indépendance de cette production. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le producteur qui en a la charge du début jusqu'à la fin, qui a la responsabilité du lien avec les auteurs et qui est le garant de la bonne exécution de l'œuvre. Mmh. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui nous distingue de la part des plateformes.
Mais là, ils sont pas d'accord, évidemment. Oui.
Bah, d'accord, mais c'est un débat et c'est aussi le législateur qui, à un moment, pose des limites et pose des principes. Mmh. Et je considère.
Oui, mais en même temps, c'est de dire il faut pouvoir répondre à Netflix. Quand je suis M6, quand je suis TF1, hein, c'est la même chose. J'ai le droit, il faut que je puisse répondre à Netflix.
Mais ils peuvent tout à fait répondre à Netflix.
Avoir,
ils peuvent
mes productions.
Faire des alliances avec Netflix, TF1 l'a fait avec le Bazar de la Charité, où il y a une coproduction entre TF1 et Netflix. Et aujourd'hui, eh bien, vous retrouvez le Bazar de la Charité sur Netflix et plus sur TF1. Ouais. Donc on voit bien que ça, la loi, elle n'intervient pas dans ce type de relation contractuelle. Ce qu'on dit surtout, c'est qu'il faut imposer des obligations aux plateformes qui aujourd'hui n'en ont aucune, n'ont aucune obligation de financement de la création en France et restent dans des modèles où finalement les producteurs sont des prestataires de services.
Aurore Berger, vous allez réussir à faire payer les plateformes ?
Oui, bien sûr.
Pour financer la création. C'est une des modalités de votre réforme sur l'audiovisuel. Est-ce que vous allez y arriver ? Parce qu'on voit bien que c'est pas. Sinon, il n'y aurait pas tout ce débat autour des taxes GAFA. C'est compliqué.
Alors, déjà, le grand avantage qu'on a, c'est que c'est une obligation européenne.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une directive qui le permet. Et on a changé le modèle parce que pour la première fois, c'est pas le pays d'origine qui compte, c'est le pays dans lequel les plateformes exerce. Et donc, pour la première fois, l'obligation
financière. Oui, exerce et non pas existe. Exerce.
Exactement. Oui. Et ça change tout. Donc, les 25% qu'on dit que sera 25% du chiffre d'affaires des plateformes, eh bien, ça veut dire que ce sera bien 25% en France. Et ça, c'est une directive européenne. Oui. Donc, ça veut dire que dans tous les autres pays européens, on va être les premiers à transposer cette directive. On va aussi inspirer la manière avec laquelle ça va pouvoir être transposé.
Tiens, c'est une bonne question pour Margrethe Vestager, donc la vice-présidente de la Commission européenne, qui sera mon invitée demain matin ici pour voir quelle est la réponse de l'Union européenne face à cette crise du coronavirus. Dernière question à Berger. À titre personnel, vous êtes pour le renouvellement de Delphine Ernotte ? On dit que oui ?
Alors, moi j'ai
la patronne de France.
J'ai juste dit une seule chose. j'ai remarqué ce que je trouve quand même anormal, c'est qu'aucun patron de France Télévisions n'a jamais été reconduit. Jamais. Dans l'histoire de France Télévisions, il n'y en a jamais un qui a fait un deuxième mandat. Je ne dis pas qu'il faudrait forcément que ce soit le cas là, mais enfin, justement, vous parliez de Nicolas de Taverneau, lui, il a vu beaucoup, beaucoup de patrons de France Télévisions passer, et lui, il est toujours là. Oui. Et ça permet quand même d'avoir une assise extrêmement puissante pour le groupe qui est le sien. Donc, on peut quand même s'étonner.
Vous voulez dire qu'il est temps qu'il s'en aille ?
Non, pas du tout. Je dis juste que justement, le fait qu'il soit resté aussi longtemps, à mon avis, a permis cette stabilité et cette force du groupe M6, et que l'audiovisuel public a changé en permanence. À mon avis, ça n'a pas conforté son rôle.
Merci beaucoup, Pierre Bréry. Pas de 49.3 sur la réforme de l'audiovisuel.
Non,
y a pas de... Merci beaucoup, Aurore Berger, merci d'avoir été avec nous, donc la rapporteure de ce projet de loi sur l'audiovisuel. C'est la fin de l'orage. On se retrouve bien sûr demain, je le disais, 8h15. Margaret Vestager, là, tout sur l'Europe, quel plan, quelle ampleur. Et puis on se retrouve bien sûr l'orage 12h-13h.